Eh bien, je vais vous parler plutôt de l'Annonciation. Je vais prendre quelques textes dans le Nouveau et l'Ancien Testament pour nous montrer comment Dieu a accompli son plan de rédemption et de pardon, en quelque sorte. Oui, c'est le pardon que le Seigneur nous apporte en venant sur cette terre, en cette période de Noël. Oui, c'est le pardon que Dieu a voulu envoyer aux hommes. Et nous commencerons par une lecture très connue dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er, verset 26. Donc l'ange Gabriel est allé annoncer à Élisabeth qu'elle serait enceinte, qu'elle aurait un enfant, qui serait l'annonciateur de la venue du Messie. Et après, l'ange Gabriel va rejoindre Marie. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vois ta parente Élisabeth, attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Un plan de salut pour l'humanité est en train de s'établir à ce moment-là. Je pense que le sentiment de Dieu, le Père, était quand même un sentiment terrible de devoir envoyer son Fils pour naître, prendre la forme d'un petit enfant et naître et vivre sur la terre pendant une trentaine d'années d'accomplir cette dure mission. Je crois que le cœur de Dieu était gros. Il avait le cœur gros de faire cela. Mais il n'avait pas le choix. Parce qu'il l'avait promis il y a des millénaires qu'un sauveur viendrait. Que l'humanité ne pourrait pas résister dans cette voie sans pardon. Et qu'il fallait qu'un innocent vienne et paye pour l'humanité pécheresse. Donc je crois que le sentiment de Dieu devait être très dur de se décider à envoyer son Fils. C'était certainement, et je crois, comme on le dit souvent, pas une partie de plaisir pour Jésus de venir sur la terre et d'accomplir cette mission quand nous voyons la souffrance au calvaire. Mais pourquoi tout cela est arrivé ? Mais revenons un peu en arrière, au début de la création. Dans la Genèse, chapitre 1er, quand Dieu a créé le monde, créé l'homme, il dit « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. » Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 6e jour, la création était terminée, Dieu a terminé son œuvre, Dieu a placé tout dans ce monde, dans l'univers, dans les galaxies, et il a placé l'homme sur la terre. Et Dieu a considéré que ce qu'il avait fait était parfait. Il a créé un monde d'amour, de paix, de sérénité. Pas besoin de pardon à ce moment-là parce que le monde vit dans la sainteté. Depuis toujours, Dieu a aimé l'homme qu'il a créé. Dieu l'a créé, le tyran de la terre, l'a mis sur cette planète pour cultiver, pour vivre dans la sérénité. Il lui a communiqué tout son savoir. Il lui a accordé tout ce dont il avait besoin. L'homme n'avait Pas besoin de rechercher plus. Tout était parfait. Dieu a vu que ce qu'il a fait était parfait. Et malheureusement, comme vous le savez, un grain de sable vient se mettre en travers de la route de Dieu, en travers de la route de l'homme, par le moyen de Satan. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu a permis cela? Mais Dieu a permis que l'homme soit libre, qu'il y ait le choix entre le bien et le mal. C'est pour cela que Dieu lui avait défendu de manger ce fruit interdit, qui, soit dit en passant, n'est pas une pomme. Mais Dieu a voulu que l'homme ne soit pas simplement un simple pantin, mais qu'il ait le choix devant lui. Choisis la vie afin que tu vives, dira-t-il plus loin dans le Deutéronome. Et quand l'ennemi s'est présenté à l'homme et à la femme pour lui susurrer, lui dire « Mais va manger ce fruit, rien ne t'arrivera que du contraire. Vous allez devenir comme des dieux. » Et nous est dit au chapitre 3 de la Genèse, au verset 7, « Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Mais l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. » Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » Et celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme, bien sûr. C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» Et la femme dit, « C'est le serpent qui m'a trompé. » Répondit la femme, « Et j'en ai mangé. » Quelle vie extraordinaire devait avoir Adam et Ève, parce que c'est Dieu qui a inventé le travail et il lui a dit « Tu cultiveras du jardin ». Donc toute la journée, Adam et Ève travaillaient, vaquaient à leurs occupations. Et le soir, pas de télé, les amis. Mais, mieux que ça, Dieu en personne venait se promener dans le jardin et passer la soirée avec... Mais ça vous est déjà venu à l'esprit que Adam et Ève passaient la soirée avec Dieu. Dieu parcourait le jardin et il allait trouver Adam et Ève à ce moment-là. Dieu pouvait se montrer à l'homme parce que il n'y avait pas le péché qui séparait Dieu de l'homme. Et ils pouvaient avoir une conversation, passer la soirée comme ça, ensemble, assis dans son canapé, et Dieu leur parlant. Quelle soirée merveilleuse ils devaient avoir. Ce n'est pas une caricature, mais c'était la réalité. C'est peut-être que ça ne nous a jamais frappé à l'esprit qu'il y avait cette conversation intime entre Dieu et l'homme pendant quelque temps. Mais voilà que ce grain de sable est arrivé et l'homme est tombé dans le péché. Et qu'est-ce qui s'est installé dans le cœur de l'homme? Bien sûr le péché, mais la peur. L'homme a connu la peur. Quand l'homme a connu le péché, la peur s'est installée. Et quand Adam et Ève entendent les pas de Dieu venir dans le jardin, pourtant ils avaient l'habitude d'avoir cette conversation intime avec Dieu, ce jour-là, ils ont peur. Parce que le péché s'est installé dans le cœur de l'homme. Le péché est arrivé sur notre planète. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Pourquoi nous avons besoin de pardon. Parce que l'homme a connu, malheureusement, le péché. L'homme a préféré écouter son ennemi. Et le résultat fut le péché et la mort. Et Dieu, à ce moment-là, doit revoir vraiment tous ses plans. Parce que ce n'était pas prévu au départ que l'homme, Dieu pensait que l'homme allait vivre éternellement sur cette terre, dans la jouissance de ses biens. Et Dieu doit doit faire quelque chose pour rétablir cette relation d'amour avec l'homme. Et il s'adresse à Satan et lui dit, « Mais je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Dieu prévoit qu'il y aura un conflit entre le bien et le mal, que quelqu'un devra payer, devra écraser l'ennemi. C'était le Fils de Dieu. Dieu doit préparer la venue de son Fils. Dieu, ne supportant pas de voir sa créature s'autodétruire, a trouvé une solution. Il veut réparer ce que l'homme a détruit. Et pour cela, il a un plan extraordinaire pour l'homme. Dès le début de la création, il veut sauver l'humanité. Il lui a envoyé un sauveur, qui n'est autre que son Fils. Dieu veut une victoire totale sur le péché, et cela ne se fera pas sans mal, frères et sœurs. Il l'annonce déjà, le combat sera rude, mais son Fils en sortira blessé, meurtri, mourant. Mais il vaincra, afin de racheter notre humanité pécheresse. Voilà le plan de Dieu. Voilà le premier avant Noël. Au début de la création, Dieu a modifié ses plans afin de ramener la paix entre Dieu et l'homme. Et les années vont s'écouler. Dieu se choisira un peuple, le peuple d'Israël, qui devait être un signe parmi les nations de la présence du vrai Dieu au milieu de lui. Mais ce peuple a été aussi désobéissant. Pourtant, Dieu lui donnera des lois, des ordonnances à suivre. Malheureusement, ce peuple n'a jamais voulu écouter Dieu qu'à de rares occasions. Il s'est révolté combien de fois? Et l'humanité en général dégénère. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous n'avons rien inventé, sauf nous avons peut-être peaufiné nos vices avec les nouvelles technologies, mais nous n'avons rien inventé. Le péché a toujours été le péché. Tout ce que nous voyons comme vices, ils existaient déjà. Si nous voyons déjà du temps de Ninive, tout le péché et tout ce qui se passait au point de vue sexuel et tout ça existait déjà. Sauf maintenant, nous avons de nouvelles technologies et nous pouvons peaufiner tous ces vices. Et Dieu a parlé à son peuple par les prophètes. Et Dieu parle aux hommes, comme encore actuellement. Il nous parle en nous envoyant les signes avant-coureurs de son retour prochain. Mais malheureusement, encore une fois, l'homme n'écoute pas. Dans Ésaïe, et je continue donc pour vous montrer tous les passages où nous voyons l'annonce du Messie. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Il annonce qu'une jeune fille deviendra enceinte d'un fils. C'est un fils tout à fait spécial. Il sera le sauveur de l'humanité, celui de qui viendra le salut. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Il viendra sous la forme d'un bébé, d'un enfant innocent. Il sera lui que Dieu a choisi afin de apporter la rédemption du monde. Ésaïe dira encore plus loin, « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Cet enfant est né pour nous, car Dieu a trop aimé l'homme. Il ne peut le laisser se débrouiller seul. Il lui faut un sauveur. Jean 3,16 nous dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce sauveur sera merveilleux. Ce sauveur sera merveilleux en grâce, en action. Il apportera la guérison physique, la guérison spirituelle à l'homme. Il sera le conseiller par ses paroles. Il guidera, il conseillera les emmenant à la rédemption. Il sera notre Père. Il nous aime comme un Père, nous protégeant, nous rassurant, nous apportant tout ce que notre être recherche. Prince de la paix, Jésus est venu apporter la paix. la paix et la sérénité dans nos cœurs. Et nous savons que le monde actuellement, et il a toujours, et pas seulement qu'actuellement, mais toujours le monde n'a jamais connu la paix au niveau mondial, mais aussi la paix intérieure, la paix dans le cœur, la paix dans les familles, la paix dans les ménages. Et Jésus est venu apporter la paix. Oui, ce sera le prince de la paix. Jésus dira, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Jésus nous a donné cette paix qui seule rassure, mais encore aujourd'hui, l'homme ne veut pas de cette paix, ne veut pas de la paix que Dieu propose. Il préfère s'opposer à lui, il préfère rechercher toutes sortes d'échappatoires. Et l'homme ose encore lever le poing vers Dieu. Si Dieu existe, combien de fois n'avons-nous pas entendu ça? Si Dieu existe, il ne se passerait pas ceci, il ne se passerait pas cela, il n'y aurait pas tant d'enfants qui meurent de faim, il n'y aurait pas tant de guerres. Mais ce n'est pas Dieu qui fait la guerre, c'est l'homme qui veut se battre, c'est l'homme qui veut se révolter toujours contre Dieu. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de pandémie. Mais que fais-tu de Jésus-Christ, ô homme ? Que fais-tu de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus, de ce qu'il est venu sur la terre proposer le salut? Et l'homme le fuit, l'ignore. Comme il y a 2000 ans, il reste dans l'indifférence. Michée dira, « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé et aux jours anciens. » Dieu, par le prophète Michée, désigne le lieu où naîtra le Sauveur. Bethléem est choisi afin d'avoir la joie d'accueillir le Sauveur. Et croyez-vous que le peuple d'Israël se préparait à recevoir ce merveilleux Messie? Croyez-vous que les gens allaient vite à Bethléem se disant « On ne sait jamais, le Messie vient de naître ». Pensez-vous qu'il attendait avec impatience sa venue? Non. Tout le monde vaquait à ses occupations. Nous le voyons quand Marie arrivait au terme de sa grossesse. Personne pour accueillir le Sauveur. Personne pour les héberger. Tout le monde vaquait à ses occupations sans se rendre compte que quelque chose de glorieux allait se produire sur la terre. Oh, seules quelques personnes attendaient, il est vrai, avec impatience la venue du Sauveur. Il y a Siméon, il y a Anne et sûrement quelques autres. Ils n'avaient qu'une seule envie. Voir arriver le Sauveur. Et dans notre monde matérialiste, nous avons perdu aussi le sens de Noël. Pour beaucoup, à part une fête de famille où l'on se réunit pour manger, boire, c'est ce que tout le monde est en train de préparer pour maintenant, recevoir les cadeaux qui nous reviennent, Noël, bien sûr, a perdu de son sens, même parfois pour les chrétiens. Quand on parle de Noël maintenant, on pense au Père Noël et aux reines. Il y a énormément de films de Noël, comme ma femme est joyeusement retraitée, elle peut de temps en temps regarder pendant que moi je travaille avec beaucoup de peine, et elle me raconte ses films de Noël, mais et de temps en temps je zappe dessus, je dis mais c'est vrai, c'est magnifique, c'est beau, c'est mielleux, mais il n'est jamais parlé du Sauveur, hein. Il est parlé d'une rencontre amoureuse qui va se terminer comme il faut, du Père Noël, etc., etc. Mais où est le message de Noël? Où est le message de Noël encore aujourd'hui? Le message de Noël, c'est la venue du Sauveur, c'est la venue du pardon de Dieu. Noël est dénaturé, il a perdu son sens. Y a-t-il encore quelqu'un de pur comme Marie aujourd'hui pour porter cet enfant en elle? Bien sûr, il ne nous est pas demandé de concevoir cet enfant, il est déjà venu, mais nous pouvons porter Jésus autrement, par notre message, par notre vie, en nous démarquant de notre monde, en vivant contre-courant. Annoncer au monde qu'un Sauveur est venu et qu'il agit encore pour sauver celui qui s'approche de lui. Cette femme, Marie, pouvait être la mère du Sauveur car elle avait toutes les qualités en elle pour en être sa mère. Elle avait une vie exemplaire. Dieu voulait pour son fils quelqu'un de consacré. Et s'il a choisi Marie, elle avait en elle ce qu'il fallait d'amour et de consécration pour porter le Sauveur de l'humanité. Je reviens à l'annonciation qui lui a été faite. L'effet de surprise passé pour Marie, elle comprend que sa mission ne sera pas facile. Tout d'abord vis-à-vis de son fiancé. Elle est fiancée à Joseph. Et aller lui annoncer qu'elle est enceinte, alors qu'elle se prétend vierge, alors qu'ils n'ont jamais eu de relation ensemble, ça va être une affaire difficile à faire passer. Nous, en tant qu'hommes, notre femme nous dirait « Je suis enceinte, si ce n'est pas de moi, de qui ?» Et Joseph a dû dire « De qui ?» Mais du Saint-Esprit qu'elle lui a dit. Même que Joseph était quelqu'un de consacré, nous voyons que sa réaction n'était pas quelque chose de joyeux pour lui d'apprendre que sa femme était enceinte. Elle a dû annoncer ces choses et je ne crois pas que Joseph ait compris à ce moment-là ce qui se passait dans le corps de Marie. Et si ce qu'elle lui disait était vrai, quel coup de massue pour lui. Nous le voyons dans le texte dans Matthieu chapitre 1er. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'aient vécu ensemble, Joseph, son futur mari, est un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple et de ses péchés. » Joseph, c'est un gars bien. Hein? Ah franchement, je ne sais pas si on aurait fait comme lui. Il apprend que sa femme est enceinte, elle lui dit que c'est par l'action de l'Esprit-Saint, il en doute, ça c'est certain. Il dit « Bon, on va pas aller plus loin, on va rompre nos fiançailles, mais je ne vais surtout pas la décauser à gauche ou à droite. On va rompre nos fiançailles, on va rester bons amis, terminé. » Quel gars bien. Et Dieu voit qu'il avait fait le bon choix en prenant ce couple-là. Et Dieu va parler à Joseph et lui dire « Joseph, voilà, tout ce qui se passe est vrai. Ta future épouse porte le Sauveur en elle, tu vas l'élever. Et cet enfant sera le Sauveur de l'humanité. » Oui, Joseph n'avait pas vu l'action de l'Esprit-Saint, il a cru une tromperie. Et comme Dieu connaissait la droiture de cet homme-là, il lui parle afin de l'utiliser, afin que le plan de Dieu puisse se dérouler normalement. Et en utilisant Joseph comme père terrestre de Jésus, il savait que cette mission pouvait être menée à bien. Joseph et Marie étaient prêts à recevoir dans leur famille le Sauveur et l'élevé. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, tout comme Joseph et Marie, à recevoir Jésus dans notre famille, dans nos vies, pour qu'il guide nos parents? On veut se dire, mais nous sommes ici, c'est que nous sommes enfants de Dieu, oui. Mais est-ce que nous sommes toujours des porteurs de Jésus? Notre vie est-elle un exemple, comme Joseph et Marie? Sommes-nous vraiment ces porteurs d'amour vis-à-vis du monde, comme le Sauveur l'était? Frères et sœurs, pour beaucoup, cette période de Noël fait partie du folklore de Noël. La magie de Noël, dit-on souvent. Il n'y a rien de magique là, dans ce que Dieu a fait, mais c'est glorieux. C'est Dieu qui a agi. Il n'y a rien de magie là-dedans. Frères et sœurs, Jésus n'est pas une légende. Jésus ne fait pas partie du folklore. Si dans nos villages de Noël, il y a folklore, il y a tout ce qu'il faut pour amuser la galerie, et je ne conteste pas l'amusement, mais derrière cela, je suis certain, et je ne crois pas me tromper, qu'il n'y a aucune annonciation de la venue du Sauveur dans tous ces stands. Je ne pense pas, Henri, toi qui connais, je ne pense pas qu'il y ait un stand évangélique qui annonce dans notre village de Noël la gloire de Dieu. Non, malheureusement. Comme je disais, Noël est dénaturé. Non, Jésus ne fait pas partie de notre folklore, mais il fait partie de notre vie parce qu'il est notre Sauveur. Je voudrais que ce matin, nous puissions à nouveau réaliser la douleur du Père qui a envoyé son Fils vivre sur cette terre. Que nous puissions à nouveau réaliser le cheminement du Christ sur cette terre, sa vie, sa souffrance. Ne nous laissons pas emporter, frères et sœurs, par ce courant libéral qui malheureusement doute de la divinité du Christ. Non, le Christ n'est pas un personnage de légende, mais bien le Sauveur du monde, mon Sauveur, ton Sauveur. Nous, frères et sœurs, ce matin, en ce troisième dimanche de l'Avent, reconsidérer aujourd'hui ce que Jésus représente pour nous. Ce que ce moment de festivité que nous allons passer représente pour vous, bien sûr, pour nous. Bien sûr, c'est une joie de revoir nos familles, de se rassembler, surtout en ces temps de pandémie où nous sommes souvent privés de nos chers parents, de nos chers enfants, etc. Mais que nous puissions revivre cette année un autre Noël, reconsidérer ce que Jésus représente vraiment pour nous. Non pas un personnage de légende, non pas simplement un personnage historique, non pas un grand bienfaiteur, non pas le premier des syndicalistes, non pas un grand philosophe, mais qu'il représente vraiment notre Sauveur et le Sauveur du monde. Mon Sauveur et ton Sauveur. Ce matin, frères et sœurs, repensons vraiment au parcours du Fils de Dieu. Cette chute de l'homme qui a précipité tout cela, qui a obligé Dieu à changer ses plans. Les annonciations faites par les prophètes, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. Et maintenant, il est dans la gloire et il intercède pour chacun d'entre nous. Prenons quelques moments de réflexion ce matin, que nous puissions à nouveau dire « Seigneur, merci. Merci pour ta venue.